Et Gwen reprit lentement connaissance et se demanda où elle était. Encore sonnée, elle eut pourtant le réflexe de garder les yeux fermés. Faire semblant d'être toujours inconsciente ne se révéla pas très compliqué. Sa tête reposait sur l'épaule d'une femme, et elle n'aurait pas pu la soulever, même s'il en avait eu envie. L'épaule d'une Aes Sedai, elle sentait le pouvoir. Dans sa tête embrumée, les pensées dérivaient au ralenti. Ses membres, elle les sentait à peine. Malgré sa chute dans l'eau, sa robe d'équitation et son manteau étaient secs. Avec un tissage très simple, c'était facile à réaliser, mais on n'avait sûrement pas séché par bienveillance. Et Gwen était assise entre deux sœurs, l'une exhalant un parfum floral entêtant. D'une main, chacune tenait la prisonnière à peu près droite. Au tangage permanent et au bruit, Egwene devina qu'elles étaient dans une diligence ou un coche. Avec précaution, elle entr'ouvrit les yeux. Sur les portières du véhicule, les rideaux étaient ouverts. Une mauvaise idée, vu l'odeur de pourri qu'il laissait ainsi entrer. Une véritable odeur de décharge d'ordures. Comment avait-on pu en arriver là, à Tarvalon? Une telle négligence, ça faisait déjà une raison de renverser Elaïda. À la lueur de la lune, Egwen distingua les trois Aes Sedai assises en face d'elle. Même si elle n'avait pas senti leur aptitude à canaliser, leur châle à longue frange aurait suffi à les identifier. À Tarvalon, porter un tel accessoire vestimentaire sans être une sœur n'était pas recommandé. Étrangement, l'Aes Sedai de gauche était plaquée contre la paroi du coche, le plus loin possible des deux autres, qui se serraient l'une contre l'autre comme pour se protéger d'une pestiférée. Très étrange, ça. Soudain, Egwen s'avisa qu'on ne l'avait pas coupée de la source. Aucun bouclier. Malgré sa torpeur, elle songea que ça n'avait pas de sens. Ces femmes captaient sa puissance, comme elles sentaient la leur. Et bien qu'aucune ne fût faiblarde, elle aurait juré pouvoir les maîtriser toutes, à condition d'être assez rapide. Comme un soleil brillant derrière son épaule, la source authentique l'appelait. Devait-elle tenter le coup? Avec l'esprit dans le brouillard, rien ne garantissait qu'elle pourrait s'unir aux Saïdar. Qu'elle réussisse ou non, ses geôlières le sentiraient. Donc, il valait mieux attendre un peu. D'accord, mais combien de temps? À coup sûr, on ne laisserait pas indéfiniment sans bouclier. À titre d'expérience, elle tenta de bouger les doigts de pied dans ses lourdes chaussures de cuir et constata, ravie, qu'il lui obéissait. Signe encourageant, la vie revenait dans ses membres. Et elle était de nouveau en mesure de lever la tête, même si ce serait difficile. La substance qu'on lui avait faite avaler perdait de son efficacité. Combien de temps depuis sa capture? Egwene perdit le contrôle des événements à cause de la sœur aux cheveux noirs assise directement en face d'elle. Se penchant, cette femme la gifla assez fort pour qu'elle s'affale sur les genoux de la femme dont l'épaule soutenait sa tête. D'instinct, la main d'Egwene vola vers sa joue. Plus question de feindre la conscience désormais.
« Ce n'était pas indispensable, Catherine !» dit une voix rauque.
Cette sœur-là remit la prisonnière droite. Sa tête tournant toute seule, Egwene vit que sa tortionnaire était Catherine Alroudine, une sœur rouge. Pour une raison étrange, identifier ses ravisseuses semblait vital. Pourtant, de cette Catherine, elle ne connaissait rien, à part son nom de famille et son aja. La sœur sur qui elle s'appuyait était blonde, mais à part ça, son visage noyé dans les ombres ne lui disait rien.
« Tu lui as donné trop de fourches racines !»
dit-elle. Egwene frissonna. C'est ça qu'on lui avait fait boire? Dans sa mémoire, elle chercha tout ce que Nineveh avait pu lui raconter sur cette infusion traîtresse. Mais elle pensait toujours au ralenti. Enfin, un peu moins, aurait-on dit. Selon Nineveh, se souvint-elle, les effets mettaient longtemps à se dissiper.
« Je lui ai administré la dose requise, Felana !» répondit Catherine. « Comme tu le vois, elle s'est réveillée au moment prévu. » Avant que nous soyons à la tour, je veux qu'elle puisse marcher. Pas question de la trimballer encore.
Catherine foudroya du regard la sœur assise sur la gauche d'Egwene. Prital Nerbaïdjan continua pourtant à secouer la tête. Membre de l'âge à jaune, Prital faisait tout son possible pour ne pas devoir donner des cours aux novices et aux acceptés. Quand on l'y forçait, elle ne cachait pas quelle corvée c'était pour elle.
La faire porter par mon Haril n'aurait pas été convenable,
dit-elle froidement.
Pour ma part, je serais ravie qu'elle marche. Sinon, je ferai avec. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de la livrer aux autres. Si tu n'as aucune envie de la porter, Catherine, moi je refuse de la surveiller toute la nuit dans le donjon.
Catherine hocha nerveusement la tête. Le donjon. Bien sûr, pensa Egwen, elle finirait dans une minuscule cellule sous les sous-sols de la tour. Après, Elaïda l'accuserait d'avoir usurpé le titre de chair d'Amirline. Pour ce crime, le châtiment était la mort. Bizarrement, ça n'angoissa pas la prisonnière. Peut-être à cause de la maudite potion. De Romanda ou de Lelaine, laquelle consentirait à être nommée chair d'Amirline des rebelles après sa mort? Ou ces deux femmes continueraient-elles à se crêper le chignon, laissant la rébellion aller à volo? Et ses membres retournaient sous l'aile d'Elaïda? Une triste perspective, ça. Désespérante, même. Si la fourche racine ne bloquait pas ses émotions, puisqu'elle pouvait être triste, pourquoi Egwen n'avait-elle pas peur? Du pouce, elle voulut toucher sa bague au serpent, et constata qu'on la lui avait confisquée. Alors, sa colère explosa. Ces femmes pouvaient la tuer, mais elles ne la priveraient pas de son identité d'Aes Sedai.
« Qui m'a trahi ?»
demanda-t-elle, fière de parler d'un ton égal.
« Le révéler n'est pas dangereux, puisque je suis entre vos mains. »
Les sœurs la regardèrent comme si elles s'étonnaient qu'elle ait encore une voix. Catherine se pencha de nouveau et arma son bras. Quand Felana lui saisit le poignet pour bloquer la gifle, les yeux de la sœur rouge lancèrent des éclairs.
« Elle sera exécutée, ça ne fait pas de doute, » dit Felana. « Mais c'est une initiée de la tour, et aucune d'entre nous n'a le droit de la frapper. « Lâche mon poignet, la marron !»
rugit Catherine. L'aura du Saïdar l'enveloppa, plutôt étrange entre des complices. En un clin d'œil, l'aura entoura toutes les femmes présentes dans le coche, à l'exception des Gwen. Comme des chats avant de feuler, puis d'attaquer, elles se défièrent du regard. À part Catherine et la grande sœur assise à côté d'elle, qui ne se regardèrent pas. Mais les autres les bombardèrent de coups d'œil assassins. Par la lumière, que se passait-il donc? Dans le coche, l'hostilité était à couper au couteau. Après un moment, Felana lâcha le poignet de Catherine et se cala à la banquette. Mais personne ne se déconnecta de la source. Et Gwen devina pourquoi. Aucune de ces femmes ne voulait être la première à le faire. À la lueur de la lune, tout arborait une impassibilité de statue. Mais Felana serrait convulsivement son châle, et la sœur qui se tenait le plus loin possible de Catherine lissait frénétiquement sa jupe.
« Il est temps de prendre quelques précautions, »
annonça Catherine en tissant un bouclier.
« Il serait dommage que tu tentes une manœuvre inutile. »
Sous le regard vicieux de la sœur, Egwen se laissa envelopper par le bouclier. Dans son état, elle doutait de pouvoir tisser le Saïdar. De toute façon, contre cinq femmes déjà unies au pouvoir, elle n'aurait pas résisté longtemps. La sagesse de la prisonnière parut décevoir la sœur rouge.
« C'est sûrement la dernière nuit que tu passes en ce monde, »
lâcha-t-elle.
« Selon moi, dès demain, Elaïda te fera calmer, puis décapiter. C'est peut-être même pour ce soir, »
dit la sœur qui se montrait relativement amicale avec sa collègue rouge.
« Elaïda est très pressée de se débarrasser de toi. »
Contrairement à Catherine, cette femme se contentait d'énoncer une évidence. Pourtant, c'était sûrement une sœur rouge, comme son amie. Du coin de l'œil, elle observait les trois autres à Aes Sedai, comme si l'une d'entre elles risquait de tenter quelque chose. De plus en plus étrange. Refusant de faire plaisir à ces femmes, Egwen resta très calme. Le meilleur moyen de mécontenter Catherine, à coup sûr. Jusqu'à la hache du bourreau, Egwen entendait préserver sa dignité. Qu'elle ait ou non fait des merveilles à ce poste, elle entendait mourir comme une chair d'Amirline. La femme plaquée contre la paroi prit la parole. Son fort accent de Larafel aida Egwen à mettre un nom sur son visage étroit et long. Berisha Terakuni. Une sœur grise connue pour interpréter les lois avec la plus extrême rigueur, mais en penchant toujours du côté de la répression.
« Ni ce soir, ni demain, Barassine, »
dit-elle.
« Pour ça, il faudrait qu'Elaïda convoque les représentantes au milieu de la nuit et qu'elle soit assez complaisante pour voter. Pour une telle affaire, il faut une haute cour, et ça ne s'improvise pas. De plus, le hall est beaucoup moins prompt à soutenir Elaïda ces derniers temps. Le vote aura lieu, mais nul ne peut dire quand.
Le hall répondra dès qu'Elaïda claquera des doigts,
marmonna Catherine.
Sinon, elle distribuera les pénitences, et les représentantes regretteront leur insubordination. Dès que nous avons vu qui nous venions de capturer, Jala et Mary m'ont filé à bride abattue. Elaïda doit déjà être informée, et pour cette proie, je parie qu'elle tirera les représentantes du lit. De ses propres mains, s'il le faut.
S'adressant à Berisha, elle siffla.
Elle te proposera peut-être pour le siège du pardon. Tu aimerais ça?
Berisha se redressa, indignée, et ajusta son châle. Parfois, la sœur qui défendait une accusée risquait la même sentence que sa cliente. Dans certains cas, c'était sans doute inévitable. Malgré tout ce que Siouan lui avait enseigné, Egwene n'avait pas idée de la réponse.
« Ce qui m'intéresse, »
dit Berisha à la prisonnière, en ignorant superbement les deux femmes assises à côté d'elle.
« C'est ce que tu as fait à la chaîne du port. Comment inverser le processus ?»«
C'est impossible, » répondit Egwene.
« La chaîne est en Quendiyar désormais. Même le pouvoir ne saurait la briser. Au contraire, il la renforcerait. En revanche, en cassant une bonne partie de la muraille du port, vous pourrez la retirer puis la vendre. Si quelqu'un peut s'offrir un tel poids de Quendiyar, bien entendu. Mais qui voudrait d'un objet pareil ?»
Cette fois, personne n'empêcha Catherine de gifler la prisonnière. Très fort, bien sûr.
« Ferme-la !»
rugit la sœur rouge. Un bon conseil, si Egwene ne voulait pas se faire tabasser. Ayant déjà le goût du sang dans la bouche, elle tint sa langue, et un lourd silence s'abattit sur le coche où cinq femmes unies à la source se regardaient en chien de faïence. Un spectacle stupéfiant. Pour une mission pareille, pourquoi Elaïda avait-elle choisi des sœurs qui se détestaient? Une démonstration de force, juste pour le plaisir? Aucune importance. Si Elaïda la laissait vivre jusqu'au matin, Egwene pourrait informer Siouan de ce qui lui arrivait, et sans doute aussi Léane. Ainsi, Siouan saurait qu'elles avaient été trahies, et avec de la chance, elle démasquerait la coupable. Le seul moyen pour que la rébellion survive à tout ça. Egwene improvisa sur ce thème une petite prière pour la lumière. Son sort était secondaire, pas le reste. Quand le coche s'immobilisa, la prisonnière était assez ingambe pour en sortir sans aide. La tête encore embrumée, elle tenait debout, mais courir aurait été hors de question. De toute façon, si elle essayait, on la rattraperait après quelques pas. En conséquence, elle resta sagement près du coche laqué de noir et attendit, aussi patiente que les quatre chevaux toujours harnachés. Après tout, elle l'était aussi, en un certain sens. Levant les yeux, Egwene étudia la tour blanche. Peu de fenêtres étaient encore éclairées, toutes non loin du sommet, là où résidait Elaïda. Tout ça était de plus en plus étrange. Prisonnière et promise à mourir bientôt, Egwene avait le sentiment d'être revenue chez elle. La tour lui redonnait de la vigueur. La flamme de Tarvalon sur la poitrine, les deux laquais en livrée qui avaient fait le trajet sur le marchepied arrière du coche sautèrent à terre et vinrent proposer une main gantée de blanc à toutes les femmes qui descendaient du véhicule. Seule Berisha se laissa aider, sans doute pour être plus vite sur les pavés et pouvoir surveiller les autres. Barazine foudroya les pauvres domestiques du regard, l'un d'eux blêmissant tandis que l'autre manquait s'étouffer en avalant de travers. Pressé des pieds de nouveau ses compagnes, Felahana congédia les deux malheureux d'un vague geste. Les cinq sœurs étaient toujours unies à la source, même ici. Le coche s'était arrêté sous quatre lanternes de bronze, face à l'entrée principale de derrière, au pied du grand escalier qui menait au deuxième niveau. Non sans surprise, Egwene vit qu'une seule novice attendait sur la dernière marche, en resserrant autour d'elle les pans de son manteau blanc. Elaïda n'aurait-elle pas dû venir en personne? N'aurait-elle pas dû triompher lourdement, comme n'importe qui s'y serait attendu? Egwene fut encore plus surprise quand elle reconnut la novice. Nicolas Trihil. Le dernier endroit où elle aurait cru trouver cette fugitive, c'était bien la Tour Blanche. Dès qu'elle reconnut Egwene, Nicolas écarquilla les yeux, elle aussi très surprise. Mais elle se ressaisit et s'inclina humblement devant les sœurs.
« Catherine Sedai, »
dit-elle.
« La chère d'Amerline ordonne que la prisonnière soit livrée à la maîtresse des novices. Sylviana Sedai a déjà ses ordres, bien entendu. Finalement, on dirait que tu vas dérouiller ce soir. »
grinça Catherine. Egwene se demanda si cette femme la détestait pour une raison personnelle, si elle abominait ce qu'elle représentait ou si elle haïssait tout le monde. Dérouiller, ça voulait dire subir une flagellation. Et c'était sûrement pire que tout ce qu'on lui avait jamais infligé. Très calme, Egwene soutint le regard de Catherine, dont le sourire cruel finit par s'effacer. Pour encaisser la douleur, les Aiel avaient une méthode. Ils l'accueillaient, s'y abandonnant sans résister, ni tenter d'étouffer leurs cris. Qui sait? Ça aiderait peut-être. Selon les matriarches, la souffrance, quand on procédait ainsi, était évacuée, sans avoir vraiment d'emprise sur sa victime.
Si Elaïda a l'intention de faire traîner cette affaire en longueur, dit Felahana, je me retire du jeu pour ce soir.
Elle foudroya tout le monde du regard, Nicolas comprise.
Cette fille va être calmée et exécutée. N'est-ce pas suffisant?
Soulevant l'ourlet de sa robe, la sœur blonde s'engagea dans l'escalier, presque au pas de course, et sans se séparer de la source à tout hasard.
« Je suis d'accord, »
annonça Prital.
« Aril, je vais t'accompagner aux écuries, où tu dois conduire l'anse sanglante. »
Un type trapu au teint sombre sortit des ombres. Tenant un cheval par la bride, il s'inclina devant son Aes Sedai. Le visage de marbre, il portait une cape caméléon, qui le dissimulait presque entièrement quand il restait immobile et changeait en permanence de couleur lorsqu'il se déplaçait. Sans dire un mot, il suivit Prital dans les ténèbres, mais en se retournant souvent pour assurer leurs arrières. Prital aussi restait uni à la source. Dans cette affaire, quelque chose échappait décidément à Egwen. Sans crier gare, Nicolas s'inclina de nouveau, puis se lança dans une étrange tirade.
« Mère, je suis désolé de m'être enfui. Ici, j'espérais avancer plus vite. Avec Areina, nous pensions... « Ne l'appelle pas mère !»
aboya Catherine. Une lanière d'air s'abattit sur les fesses de la novice, lui arrachant un cri de douleur.
« Si tu es au service de la chère d'Amirline ce soir, cours lui dire que ses ordres seront exécutés. Parole de sœur rouge. Allez, file !»
Avec un dernier regard affolé pour Egwen, la novice détala à toutes jambes, si vite qu'elle faillit par deux fois s'emmêler les pinceaux et tomber. Pauvre Nicolas, ses espoirs avaient sûrement été déçus, et si la tour découvrait son âge, pour y entrer, elle avait dû mentir, une de ses nombreuses mauvaises habitudes. Et Gwen chassa la novice de ses pensées. Son sort ne la regardait plus désormais.
« Il n'était pas utile de terrifier cette fille, »
déclara Berisha, contre toute attente.
« Les novices doivent être guidées, pas tarabustées. »
Une entorse à sa rigidité habituelle. Catherine et Barazine entourèrent la sœur grise et la fixèrent intensément. Deux chattes en colère, toujours, mais qui venaient de repérer une souris.
« Tu entends venir avec nous chez Sylviana ?»
demanda Catherine avec un méchant sourire.
« Seule ? Tu n'as donc pas peur, sœur grise ?»
railla Barazine. Elle agita un bras pour faire onduler les franges de son châle.
« Rien que toi et nous deux ?»
Les laquais ne bougeaient plus. À l'évidence, ils auraient donné cher pour être ailleurs. Faute de mieux, ils se faisaient tout petits. Pas plus grande qu'Egwen, Berisha se redressa et resserra les pans de son châle autour de son torse.
« Les menaces sont formellement proscrites par les lois de... Barazine t'a-t-elle menacé ?»
coupa Catherine, avec tout le tranchant d'une dague.
« Elle a simplement voulu savoir si tu avais peur. Serait-ce le cas ?»
Blanche comme un linge, Berisha écarquilla de plus en plus les yeux, comme si elle voyait des horreurs qu'elle aurait préféré ne jamais connaître.
« Je crois que je vais faire un tour dans le parc. »
couina-t-elle enfin. Sans quitter les deux sœurs rouges du regard, elle s'éloigna vivement. Saluant son départ, Catherine eut un petit rire sec, de la pure folie. Même des sœurs qui se détestaient ne se comportaient pas ainsi, et aucune femme aussi aisément intimidable que Berisha n'était censée porter le châle. Dans la tour blanche, quelque chose clochait, et pas qu'un peu.
« On y va !»
lança Catherine en s'engageant dans l'escalier. Se coupant de la source, Barazine prit Gwen par le bras, et suivit sa collègue rouge. N'ayant pas le choix, la prisonnière se laissa entraîner. Bizarrement, elle se sentait presque euphorique. Une fois dans la tour, le sentiment d'être de retour chez elle se confirma. Les murs blancs avec leurs frises et leurs tapisseries, les dalles du sol de couleur vive. Tout ça semblait aussi familier que la cuisine de la mère d'Egwen à Chandemonde. Peut-être plus même, car la cuisine maternelle, voilà longtemps qu'elle ne l'avait pas vue, alors que ce décor... À chaque inspiration, Egwen gagnait de la force. Mais il y avait des bizarreries quand même. Alors qu'il ne pouvait pas être si tard que ça, toutes les lampes étaient allumées, et on ne voyait personne. Même au cœur de la nuit, quelques sœurs arpentaient en permanence les couloirs. Bien avant l'aube, Egwen avait souvent vu l'une ou l'autre sœur s'acquitter d'une mission urgente, avec la grâce et la majesté qu'elle doutait d'avoir un jour. En matière d'horaire, les Aes Sedai n'en faisaient qu'à leur tête. Et certaines sœurs marrons n'étaient quasiment jamais réveillées tant que brillait le soleil. Pour des érudites, la nuit se révélait plus propice à la concentration, et personne ne risquait de les déranger. Là, il n'y avait pas âme qui vive. Et à première vue, Catherine et Barazine trouvaient ça tout à fait normal, comme si le vide et le silence étaient de rigueur désormais. Sortant d'une cage d'escalier, une sœur finit par apparaître, venant des profondeurs de la tour. Bien en chair et vêtue d'une jupe d'équitation à rayures rouges, Cette femme semblait en permanence sur le point de sourire, une illusion dangereuse, considérant son châle aux longues franges rouges. Catherine et les quatre autres avaient sûrement mis le leur pour qu'on leur fiche la paix sur les quais. À Tarvalon, personne ne cherchait des noises à une sœur, ni n'en approchait quand c'était possible. Mais pourquoi l'inconnue portait-elle son châle dans la tour? Dès qu'elle vit Egwene, la sœur fronça les sourcils noirs qui surplombaient ses yeux d'un bleu brillant. Puis elle plaqua les poings sur ses hanches, laissant son châle glisser jusqu'à ses coudes. Egwene aurait juré n'avoir jamais vu cette femme. Apparemment, l'inverse était faux.
« Eh bien, mais c'est la fille Alvéré. C'est elle que la rébellion a envoyée au port du Nord. Pour cette prise, Elaïda vous couvrira de récompenses, vous pouvez me croire. Mais regardez l'arrogance de cette gamine. On dirait que vous l'escortez, pas qu'elle est prisonnière. Je l'imaginais en larmes, implorant notre clémence. »
« Les derniers effets de la potion !»
souffla Catherine avec un regard mauvais pour Egwene. Barazine secoua la prisonnière par le bras. Après avoir titubé, Egwene réussit à reprendre son équilibre et ne se départit pas un instant de son impassibilité.
« Elle est en état de choc !»
conclut la sœur rouge enveloppée. Sans véritable compassion, mais comparée à Catherine, c'était un parangon de bienveillance.
« J'ai déjà vu ça.
Comment ça se passe au port du Sud ?»
demanda Barazine.
« Pas aussi bien que pour vous, dirait-on. Alors que tout le monde poussait des cris d'orfraie parce que nous étions deux sœurs rouges, j'ai eu peur que nous flanquions la frousse à nos proies. En fait, heureusement que nous étions deux, parce que nous avons pu bavarder. En tout, nous avons coincé une naturelle, mais pas avant qu'elle ait transformé en Quendillard une bonne moitié de la chaîne. Après, nous avons failli faire crever les chevaux du coche tellement nous étions pressés de rentrer. Mais Zanika tenait à ce qu'on ne traîne pas. Elle a même remplacé le cocher par son champion. »
Une naturelle,
fit Catherine, méprisante.
La moitié de la chaîne seulement,
intervint Barazine, le soulagement audible dans sa voix.
Donc, le port du Sud n'est pas bloqué.
Quand elle saisit ce que ça impliquait, Mélaré fronça de nouveau les sourcils.
Nous verrons exactement ce qu'il en est ce matin, dit-elle, quand on abaissera la partie qui est encore en fer. L'autre ne bougera plus, dur comme une barre de Quendillard. Selon moi, seuls les plus petits navires passeront.
Elle secoua la tête, perplexe.
Il y avait quelque chose d'étrange, cela dit. Plus qu'étrange, même. Au début, nous n'avons pas pu localiser la naturelle, ni sentir qu'elle canalisait. Autour d'elle, il n'y avait pas d'aura, et on n'en voyait pas à ses tissages. La chaîne est devenue blanche, c'est tout. Si le champion d'Arabis n'avait pas repéré le bateau, la naturelle aurait pu nous échapper.
« Bien joué, Léane, »
murmura Egwene. Un court instant, elle ferma les yeux. Léane avait tout planifié avant d'être en vue du port. Son pouvoir occulté, elle avait brouillé les pistes. Si elle s'était montrée aussi astucieuse, Egwene aurait pu s'en sortir. Mais avec des si, on aurait mis Tarvalon en bouteille.
« Léane, c'est le nom qu'elle nous a donné, »
dit Mélaré, le front plissé. Ses sourcils, très fournis, étaient vraiment expressifs.
« Léane Sharif, de l'âge à vert. Deux mensonges incroyablement stupides. Dessala est en train de l'écorcher vive dans les sous-sols, mais elle ne craque pas. J'ai dû prendre un peu l'air. Le fouet, ce n'est pas mon truc, même pour les traîtresses. Tu connais cette astuce, Camine? Celle qui permet de cacher les tissages? »
Par la lumière, ces femmes prenaient Léane pour une naturelle qui faisait semblant être une Aes Sedai.
Elle dit la vérité. Avoir été calmée lui a coûté son visage sans âge, la faisant paraître plus jeune. Une fois guérie par Nineveh Almehara, elle a choisi un nouvel Aja, puisqu'elle n'appartenait plus aux Bleus. Posez-lui des questions auxquelles seule Léane Sharif peut répondre, et vous verrez...
Une boule d'air emplissant sa gorge, et Gwen fut obligée de se taire, la bouche grande ouverte.
Rien ne nous force à écouter ces bêtises,
marmonna Catherine. Mais Larry sonda pourtant le regard d'Egwen.
C'est complètement tordu, c'est sûr,
finit-elle par dire.
Mais tout de même, poser d'autres questions que « quel est ton nom ?» semble judicieux. Au pire, on s'ennuiera moins en interrogeant cette femme. Et celle-là, Catherine, on l'a conduit dans les sous-sols? Je n'ai guère envie de laisser Dessala trop longtemps en tête-à-tête avec l'autre. Elle méprise les naturels et déteste les femmes qui se font passer pour des Aes Sedai.
Les sous-sols, c'est pour plus tard, répondit Catherine. Et Laïda veut qu'on l'amène chez Sylviana.
Tant que je découvre cette astuce d'occultation, grâce à elle ou à l'autre captive, ça ne me dérange pas.
Après avoir ajusté son châle, Mélaré prit une grande inspiration et repartit d'où elle venait, avec l'expression d'une femme chargée d'une tâche qui ne l'enthousiasme pas. Et Gwen eut un peu d'espoir pour Léane. Désormais, elle était l'autre prisonnière, plus la naturelle. Catherine reprit son chemin dans le couloir en silence. Sans ménagement, Barazine poussa Egwene devant elle, en marmonnant entre ses dents sur l'absurdité d'imaginer qu'on puisse apprendre quoi que ce soit d'une naturelle ou d'une acceptée affabulatrice. Être poussé par une femme aux jambes bien plus longues que les siennes, et avec la bouche ouverte de la bave dégoulinant sur le menton, n'était pas une situation idéale pour préserver sa dignité. Pourtant, Egwene y parvint autant que c'était possible. À supposer qu'elle s'en souciât, car les dires de Mélaré lui laissaient beaucoup à penser. Mélaré, en plus des cinq sœurs de son coche, ça ne pouvait pas signifier ce qui semblait évident, pas vrai? Sauf que... Très vite, les dalles bleues et blanches du sol devinrent rouges et vertes. Entre deux tapisseries à motifs floraux et aviaires, le trio s'arrêta devant une porte de bois, sans aucun signe distinctif, mais soigneusement cirée et connue de toutes les initiées de la tour. Avec ce qu'on aurait pu interpréter comme de la réticence, Catherine frappa au battant. Quand une voix puissante lança un « Entrez » plein d'assurance, elle inspira profondément avant de répondre à cette invitation. Gardait-elle de mauvais souvenirs de ce bureau, du temps où elle était novice ou acceptée? Ou n'avait-elle aucune envie de rencontrer la maîtresse des lieux? Le bureau était tel qu'Egwene s'en souvenait, une petite pièce sombre aux murs lambrissés et au mobilier minimaliste. À part le guéridon sculpté près de la porte et le cadre de miroir sur le mur du fond où s'accrochaient des restes de dorure, rien ici n'était ornementé. Les lampes à pied ou de bureau, pas du tout assorties, n'auraient pas déparé dans un bazar pour nécessiteux. Chaque nouvelle chaire d'Amirline nommait une maîtresse des novices bien à elle. Pourtant, aurait parié Egwene, rien n'avait changé ici depuis des siècles, en particulier la collection de badines et de fouets. L'actuelle maîtresse des novices, à la tour en tout cas, attendait ses visiteuses debout. Solidement bâtie et presque aussi grande que Barazine, elle arborait un gros chignon brun, une coiffure qui soulignait son menton volontaire. En permanence, Sylviana Bréon dégageait une impression d'autorité obtuse et de rigidité mentale. Sur sa jupe sombre, des rayures rouges proclamaient son appartenance, mais son châle, pour l'heure, reposait sur le dossier d'une chaise, derrière la table de travail. Les grands yeux de Sylviana se posèrent sur Egwene, aussitôt convaincue que cette femme connaissait non seulement la moindre de ses pensées, mais aussi celle qui traverserait son esprit le lendemain.
« Veuillez attendre dehors !»
dit la maîtresse des novices aux deux sœurs rouges.
« Attendre dehors ?»
répéta Catherine, incrédule.
« Oui. Lequel de ces deux mots ne comprends-tu pas, Catherine? Tu veux un dessin ?»
Apparemment, ça n'allait pas être utile. Rouge comme une pivoine, Catherine ne desserra pas les lèvres. L'aura du Saïdar l'enveloppant, Sylviana détissa le bouclier avec précaution, sans laisser à la prisonnière une ouverture lui permettant de s'unir à la source. Egwene était sûre d'en être capable à présent, mais Sylviana, loin d'être faible, s'était entourée elle-même d'un bouclier impénétrable. Le bâillon d'air disparut aussi. Consciente d'être impuissante, Egwene sortit un mouchoir de sa bourse et essuya la bave qui souillait son menton. Sa bourse ayant été fouillée, elle plaçait toujours le mouchoir tout au-dessus, elle devrait attendre pour savoir si on lui avait pris autre chose que sa bague au serpent. De toute façon, rien de ce qu'elle rangeait là-dedans n'aurait aidé une prisonnière. Un peigne, des aiguilles, une paire de ciseaux et d'autres petits objets de ce genre. L'étole de la chair d'Amirline aussi, très soigneusement pliée. Quel vestige de dignité pouvait-on conserver quand on allait être flagellé? Elle le saurait très bientôt. Pour l'instant, il fallait vivre le moment présent. Les bras croisés, Sylviana étudia sa proie, jusqu'à ce que la porte se soit refermée derrière les deux sœurs rouges.
« Au moins, » dit-elle, « tu n'es pas hystérique. Voilà qui nous facilitera les choses. Mais pourquoi es-tu si calme ? L'inverse servirait à quoi ?»
riposta Egwene en remettant le mouchoir à sa place.
« Je ne vois pas comment ça pourrait m'aider. »
Sylviana approcha de son bureau, consulta un document posé dessus et leva les yeux de temps en temps. Sur son visage de marbre, impossible de lire quoi que ce soit. Egwene attendit paisiblement, les mains sagement croisées. Même de loin et à l'envers, elle avait reconnu l'écriture d'Elaïda. La maîtresse des novices devait espérer que l'attente lui minerait les nerfs. En vain. La patience était la seule arme qui lui restait, désormais.
La chair d'Amirline a mûrement réfléchi à ce que tu subiras, dirait-on.
Si Sylviana espérait qu'Egwene sauterait d'un pied sur l'autre ou se tordrait les mains d'angoisse, elle en fut pour ses frais. Mais elle ne trahit pas sa déception.
Son plan est prêt depuis longtemps. Elle ne veut pas que la tour blanche te perde. Même chose pour moi. Selon Elaïda,
tu as été manipulé et on ne doit pas te juger coupable. Du coup, tu ne seras pas accusé d'usurpation de titre. En revanche, ton nom a été retiré du registre des acceptés et réintégré à celui des novices. Tu veux mon avis? J'approuve cette décision, même si ça n'a jamais été fait. Bien que très puissante dans le pouvoir, tu n'as rien appris de ce que doit savoir une novice. Mais tu ne risques pas de devoir repasser l'épreuve. Même moi, je ne forcerai pas quelqu'un à vivre ça deux fois.
Ayant été nommée chère d'Amirline, dit Egwene, toujours très calme, je suis en fait une Aes Sedai.
Malgré les apparences, lutter pour un titre au péril de sa vie n'était pas absurde. Si elle se pliait à tout, les conséquences pour la rébellion seraient aussi dévastatrices que son exécution, et peut-être plus. Redevenir une novice, c'était risible.
Je peux citer la loi correspondante, si vous voulez.
Le front plissé, Sylviana s'assit, saisit un gros livre relié de cuir et l'ouvrit. Le registre des punitions. Trempant sa plume dans un encrier très simple, elle y ajouta une annotation.
Tu viens de mériter ta première visite dans mon bureau. Au lieu de procéder tout de suite, je te laisse la nuit pour réfléchir à tout ça. Un peu de méditation t'éclaircira les idées.
Pensez-vous me forcer à renier ce que je suis en me menaçant d'une correction ?
Et Gwen s'efforça de mettre dans sa voix toute l'incrédulité du monde, sans être sûre d'avoir réussi.
Il y a correction et correction,
souffla Sylviana. Après en avoir nettoyé la pointe, elle remit la plume sur son support de verre et dévisagea Egwen.
Tu as eu Shiryam Bayanar comme maîtresse des novices.
Sylviana secoua la tête.
J'ai consulté son registre des punitions. Elle laissait passer bien trop d'offenses et se montrait laxiste avec ses favorites. Résultat, elle devait distribuer plus de corrections qu'elle l'aurait dû. Par moi, j'en afflige deux tiers de moins qu'elle, parce que je fais en sorte que ça marque l'esprit des filles, histoire qu'elle n'ait plus à revenir dans mon bureau.
« Quoi que vous fassiez, je ne me renierai pas, » assura Egwene. « Comment comptez-vous procéder pour que ça marche ? On m'escortera en cours et je serai en permanence sous un bouclier ?»
Sylviana s'adossa à son siège et posa les mains sur la table.
« Tu as l'intention de résister aussi longtemps que possible, pas vrai ?»«
Je ferai de mon mieux, oui.
Et moi aussi !»«
Le jour, tu ne seras pas sous un bouclier, mais toutes les heures, on te donnera une petite dose de fourche racine. »
Sylviana fit la moue en prononçant ce nom. Prenant les instructions d'Elaïda, elle sembla vouloir les lire, mais les laissa retomber sur la table et se frotta les doigts, comme si une substance toxique y adhérait.
« Je n'aime pas cette potion. Une arme qui semble dirigée directement contre les Aes Sedai. Une femme incapable de canaliser peut boire 5 fois la dose qui terrasse une sœur, et ce en ayant à peine la tête qui tourne. Une décoction répugnante. Mais très utile. On devrait peut-être en faire boire aux achamans.
Une faible dose n'altérera pas tes perceptions, mais tu ne pourras pas canaliser le pouvoir, enfin, presque pas. Si tu refuses de boire, on t'y forcera. Étant étroitement surveillé, tu n'auras pas la moindre occasion de t'enfuir. La nuit, tu seras placé sous un bouclier. La quantité de fourche racine requise pour t'assommer jusqu'au matin te rendrait malade toute la journée suivante. Tu es une novice, Egwene, et tu le resteras. En dépit des ordres de Siwan Sanche, beaucoup de sœurs te tiennent pour une fugitive. Et certaines jugeront qu'Elaïda a eu tort de ne pas te faire décapiter. Toutes seront à l'affût de la moindre faute ou infraction. Pour l'instant, ce que tu nommes une correction ne te fait pas peur. Mais qu'en sera-t-il quand on t'enverra 5, 6 ou 7 fois par jour dans mon bureau? Nous verrons combien de temps il te faudra pour changer d'avis.
À sa propre surprise, Egwene eut un petit rire, et Sylviana fronça les sourcils. Puis sa main se tendit vers sa plume.
J'ai dit quelque chose de drôle, ma fille?
« Pas du tout, »
répondit Egwene, parfaitement sincère. Elle avait envisagé d'aborder la souffrance à la manière des Aiel. Avec un peu de chance, ça fonctionnerait, et elle pourrait au passage préserver sa dignité. Pendant les punitions, en tout cas. Pour le reste, elle verrait ce qu'elle pourrait faire. Sylviana renonça à saisir sa plume.
« Pour ce soir, j'en ai fini avec toi. Cela dit, je te verrai avant le petit déjeuner. Suis-moi. »
Elle se leva et gagna la porte, sûr qu'Egwene la suivrait. Exactement ce que fit la prisonnière. Attaquer physiquement la maîtresse des novices ne lui aurait rien valu d'autre qu'une deuxième annotation dans le registre des punitions. De la fourche racine. Eh bien, elle trouverait sans doute une riposte. Sinon, une possibilité qu'elle refusait d'envisager. Catherine et Barazine furent plus que surprises en entendant le plan d'Elaïda, et très mécontentes d'apprendre qu'elle devrait surveiller Egwene le jour et la garder sous un bouclier la nuit. Pour les apaiser,
Sylviana leur assura que d'autres sœurs prendraient le relais après une heure ou deux.
« Pourquoi toutes les deux ?»
demanda Catherine. Cette remarque lui valut un regard noir de Barazine. Si une seule devait s'y coller, ça ne serait pas Catherine, plus haut placée dans la hiérarchie.
« Avant tout, parce que j'en ai décidé ainsi !»
fit Sylviana. Elle attendit que ses deux collègues rouges aient acquiescé, ce qu'elles firent à contre-cœur, mais très promptement. N'ayant pas mis son châle pour sortir dans le couloir, elle semblait être en porte-à-faux par rapport aux deux autres, mais ça n'était qu'une illusion.
Ensuite, parce que cette gamine est rusée. Éveillée ou endormie, je veux qu'elle soit surveillée de près. Laquelle de vous a sa bague ?
Non sans hésiter, Barazine sortit la bague de sa bourse.
Je voulais la garder pour me souvenir que les rebelles sont vaincus. Elles ont tout perdu désormais.
Un souvenir ? Non, un larcin. Egwene voulut reprendre sa bague, mais Sylviana fut plus rapide et la fit disparaître dans sa bourse.
Je la garderai jusqu'à ce que tu aies le droit de la porter de nouveau, ma fille. Bien, conduisez-la dans le quartier des novices et montrez-lui sa chambre.
Catherine retissa le bouclier et Barazine voulut de nouveau saisir la prisonnière par le bras. Mais Egwene tendit une main vers Sylviana.
Attendez, je dois vous dire quelque chose.
Elle s'était torturée l'esprit à ce sujet, angoissée par le risque d'en révéler plus qu'elle aurait voulu. Mais il fallait le faire.
J'ai le don du rêve. Je sais identifier les songes qui n'en sont pas et les interpréter. J'ai vu une lampe de verre dont la flamme était blanche. Surgissant de la brume, deux corbeaux l'ont percutée, puis se sont enfuis. La lampe a manqué tomber, projetant alentour des gouttelettes d'huile enflammées. Certaines se sont consumées dans l'air, et d'autres ont fini sur le sol, tandis que la lampe vacillait toujours. Ça signifie que les Séanchaniens attaqueront la tour blanche et lui infligeront de gros dégâts.
Barazine et Catherine ricanèrent.
Une rêveuse,
lâcha Sylviana.
Quelqu'un confirmerait tes dires ? Et dans ce cas, comment peux-tu être sûr que ce sont les Séanchaniens ? Les corbeaux symbolisent aussi les ténèbres. Je suis une rêveuse. Quand une rêveuse sait quelque chose, c'est du sérieux. Pas les ténèbres, les Séanchaniens. Quant à la confirmation de mon don, la seule femme que vous pouvez consulter, c'est Léane Sharif, détenue dans vos cellules.
Mentionner les matriarches aurait été trop dangereux.
Cette femme est une naturelle, pas une...
commença Catherine. Sylviana leva une main pour lui imposer le silence, puis elle dévisagea Egwene, le front plissé.
Tu crois sincèrement ce que tu dis,
souffla-t-elle enfin.
J'espère que ton don du rêve provoquera moins de problèmes que la prédiction de la jeune Nicolas, en supposant que tu rêves vraiment. Bien, je transmettrai ta mise en garde. Je ne vois pas comment les Séanchaniens nous attaqueraient ici, mais les précautions ne sont jamais inutiles. Sur le champ, je vais interroger la prisonnière. Si elle ne confirme pas ton histoire, le passage dans mon bureau, demain matin, sera encore plus mémorable. Catherine, Barazine, emmenez-la. Avant qu'elle me fasse miroiter une autre pépite qui m'empêchera de fermer l'œil de la nuit.
Cette fois, Catherine ronchonna autant que sa collègue. Mais toutes deux attendirent d'être hors de portée d'oreille de Sylviana. Cette femme allait être une adversaire redoutable, comprit Egwene. De quoi espérer qu'embrasser la douleur soit aussi efficace que le prétendaient les matriarches. Sinon... Mais ça, il ne fallait pas y penser. Une mince servante aux cheveux gris indiqua au trio la direction de la chambre qu'elle venait de préparer. Dans la troisième galerie des quartiers des novices. Après une rapide révérence, elle s'éloigna aussi vite que possible des deux sœurs rouges, sans avoir accordé l'ombre d'un regard à Egwene. Pour elle, quel intérêt avait une novice parmi d'autres ? Egwene serra les dents. Elle allait devoir forcer les gens à ne plus la considérer comme une novice parmi d'autres.
« Regarde son expression !»
fit Barazine.
« On dirait qu'elle prend conscience de sa situation. »« Je suis ce que je suis !»
lâcha Egwene. Superbement calme. Barazine la poussa vers l'escalier qui s'élevait dans la colonne creuse, donnant sur une succession de galeries. À la lumière de la lune, avec le souffle de la brise pour seul bruit, l'endroit semblait formidablement paisible. Aucune lumière ne filtrait des portes. À part celles qui étaient encore de corvée, les novices dormaient toutes à une heure pareille. Un moment de tranquillité pour ses filles. Pour Egwene, en revanche. La petite chambre sans fenêtre, ce n'était pas pour rien qu'on l'appelait aussi « cellule », pouvait très bien être celle qu'elle avait occupée en arrivant à la tour. Dans la cheminée en briques, des flammes éclairaient la couchette encastrée dans le mur. Sur la minuscule table, la lampe brûlait, mais on l'avait réglée au minimum, et son huile, sans doute avariée, dégageait une odeur désagréable. Une table de toilette complétait le mobilier, sans oublier le tabouret sur lequel Catherine s'assit en ajustant sa jupe, comme s'il venait de prendre place sur un trône. Ne voyant aucun endroit où s'installer, Barazine croisa les bras et jeta un regard noir à Egwene.
Quand trois femmes s'y pressaient, la pièce était bondée. Mais Egwen ignora ses compagnes et se prépara pour la nuit. Après avoir accroché sa cape, sa ceinture et sa robe à une paterne, elle s'attaqua seule au bouton de son chemisier, puis retira ses bas, les enroula et les posa sur ses chaussures. Assise en tailleur sur le sol, Barazine se concentrait sur un carnet relié de cuir qu'elle avait dû sortir de sa bourse. Catherine, elle, ne quittait pas la prisonnière des yeux, comme si elle redoutait qu'elle tente de s'enfuir. Se glissant sous la fine couverture de laine, Egwen posa la tête sur l'oreiller, pas un modèle luxueux en plume d'oie, ça ne faisait aucun doute, et exécuta les divers exercices qui lui permettaient de détendre chaque partie de son corps, puis de s'endormir sans peine. Devenue maîtresse en cet art, elle sombra très vite dans le sommeil. Soudain, sans substance, elle se retrouva dans l'obscurité qui séparait le monde réel de Telaran Riod, un étroit interstice entre le rêve et la réalité. Et en même temps, un espace infini où brillait une myriade de lucioles, les rêves de tous les dormeurs de l'univers. En ce lieu où le haut et le bas n'existaient pas, ces points lumineux dansaient autour d'Egwen, certains s'éteignant quand un rêve s'achevait et d'autres s'allumant lorsqu'un nouveau commençait. Egwen reconnut certaines de ces lucioles et identifia du même coup les rêveurs. Mais la femme qu'elle cherchait manquait à l'appel. C'était à Siouan qu'elle devait parler. Siouan qui, certainement informée du désastre, ne parviendrait pas à s'endormir avant que l'épuisement la terrasse. Eh bien, il suffirait d'attendre. Ici, le temps n'existait pas davantage que la notion d'ennui ou d'impatience. En revanche, Egwen allait devoir préparer son discours. Tant de choses avaient changé depuis son dernier réveil, et elle avait tellement appris. Après sa capture, sûre que les sœurs loyales étaient toutes derrière Elaïda, elle avait cru qu'il lui restait peu de temps à vivre. À présent, Elaïda la croyait emprisonnée pour de bon, mais c'était faux. Quant à cette histoire de retour au noviciat, même si Elaïda y croyait dur comme fer, Egwen Alvéré, sa victime supposée, n'y accordait aucune importance. Dans le même ordre d'idées, elle ne se considérait pas comme une prisonnière. Au contraire, elle allait pouvoir livrer bataille au cœur même de la Tour Blanche. Si elle avait eu des lèvres dans cette zone du monde des rêves, Egwen aurait souri.